Bonjour, bienvenue sur RFI. Il est 23h à Paris, 9h à Nouméa, 19h à Saint-Pierre-et-Miquelon, 2h sur l'île de la Réunion.
24h en France sur RFI.
Et c'est parti pour votre journal quotidien sur l'actualité française.
Théo Renaudon.
Nous irons d'abord dans un rassemblement de soutien aux Français détenus en Iran, rassemblement à Paris. Parmi les otages connus, certains le sont depuis plus de 3 ans. Et puis un focus sur la crise politique en France qui se poursuit. François Bayrou, le nouveau Premier ministre, va utiliser le 49-3 pour faire adopter les budgets de l'État et de la Sécurité sociale, annonce à la tribune dimanche à l'instant. Et puis enfin un peu de foot, cap sur la Ligue 1, le PSG a battu Brest 5-2.
24 heures en France.
Mais d'abord, plus de 200 personnes rassemblées ce samedi dans le centre de Paris en soutien à 3 Français détenus en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris, 2 enseignants arrêtés il y a 3 ans lors d'un voyage touristique. Ils sont accusés d'espionnage. Mobilisation aussi pour Olivier Grondeau, otage lui aussi depuis plus de 2 ans. Elisa Fellier a rencontré les proches et les familles des otages.
Messieurs Macron et Pézéchian, veuillez, je vous en prie, trouver un accord et libérer nos enfants, Cécile, Jacques et Olivier. Agissez, s'il vous plaît.
Ça fait maintenant 1000 jours que les parents de Cécile se battent pour la libération de leur fille. Sa sœur, Noémie, se sent de plus en plus démunie par la situation.
C'est vrai que nous, on avance depuis 1000 jours dans un flou complet, sans information, en devant faire confiance en fait à ce que nous disent les autorités françaises, à savoir qu'elles sont pleinement mobilisées. C'est pas facile tous les jours.
Vendredi, Emmanuel Macron a apporté son soutien aux familles des otages et a annoncé qu'il allait prochainement les recevoir.
Je sais que c'est particulièrement important pour mes parents notamment, parce que voilà, c'est aussi un gage de prise au sérieux de la situation de nos proches.
Une situation également considérée importante au Parlement européen. Chloé Ridel est députée européenne et porte-parole du Parti Socialiste.
J'ai porté il y a 10 jours une résolution adoptée à l'unanimité qui demande la libération immédiate de Cécile, Jacques et Olivier, qui dénoncent fermement leurs conditions de détention inhumaines et qui appellent les pays européens à se coordonner face à la pratique du régime islamique iranien.
Les familles espèrent des libérations rapides, d'autant plus que les conditions de détention ont des conséquences très graves sur la santé des otages.
Le Premier ministre français François Bayrou va utiliser le 49-3, je le disais en titre, pour faire adopter les budgets de l'État et de la Sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il va engager la responsabilité de son gouvernement, annonce dans un journal national à l'instant. Engager la responsabilité de son gouvernement, vu la crise politique en cours dans le pays, c'est clairement un risque pour le Premier ministre. La règle est la suivante: si une majorité de parlementaires vote une motion de censure ou vote donc contre le gouvernement lors de ce 49-3, eh bien, le gouvernement de François Bayrou chute, il tombe, il est obligé de démissionner. C'est ce qui est arrivé au dernier gouvernement Barnier. Cette menace est la même depuis que le président français Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale en juin dernier. Tout ça est aussi jeu d'alliance et en théorie de compromis entre les partis politiques. Alors, le nouveau gouvernement Bayrou peut-il tenir face à une assemblée qui lui est défavorable? Censurer ou ne pas censurer? Le débat est vif chez les socialistes. D'un côté, ils tentent d'obtenir les faveurs du gouvernement, mais de l'autre, ils sont considérés comme des traîtres par une partie de la gauche. Le jadis Premier ministre socialiste Lionel Jospin, lui, dit que censurer aurait des conséquences importantes.
Mais il se passerait que l'administration ne serait plus dirigée, que dans la situation financière dramatique qui est la nôtre, il n'y aurait ni budget ni loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS. Qui pourrait faire face au drame de Mayotte? Qui chercherait la réconciliation en Nouvelle-Calédonie? Qui assurerait, veillerait à la sécurité? Qui, peut-être, puisque c'est une approche qui est presque consensuelle, lancerait enfin ce plan contre le narcotrafic, si vous voulez?
Ce serait quoi, le chaos? Sans budget?
Mais ça serait un pays non dirigé, qui serait uniquement limité, en quelque sorte, à sa société civile. Donc, voter la censure aujourd'hui, effectivement, ne serait pas responsable.
Lionel Jospin sur la chaîne TV publique France 5. Transporter des marchandises en bateau à voile, c'est un défi, à l'heure où les paquebots à mazout sont la norme et responsables d'une pollution monstre dans le monde. Défi relevé par le Neoliner, origine nom du bateau considéré comme le plus long cargo à voile du monde. Il a été mis à l'eau vendredi à Tuzla, pas loin d'Istanbul. Ce géant des mers pourra emporter 5300 tonnes de marchandises sur de longues distances et c'est français. Précision Igor Strauss.
136 mètres de long, deux immenses mâts et 3000 mètres carrés de voilure, soit l'équivalent d'un demi-terrain de football. Telles sont les caractéristiques assez exceptionnelles de ce nouveau cargo à voile. Grâce au vent et en réduisant la vitesse de 15 à 11 nœuds, soit de 30 à 20 km/h, on divise par 5 la consommation de carburant et donc les émissions par rapport à un navire classique, souligne Jean Zanoutini, le président de Neoline. Au total, ajoute-t-il, c'est environ 80% d'économies d'émissions de gaz à effet de serre qui seront réalisées. La décarbonation de ce secteur est une nécessité. Aujourd'hui, 90% du commerce mondial est effectué par voie maritime, ce qui représente près de 3% des émissions de gaz à effet de serre selon l'Organisation maritime mondiale. Ce cargo à voile quittera la Turquie les cales pleines au cours de l'été 2025 pour rejoindre le port français de Saint-Nazaire. Puis il débutera sa première rotation vers Saint-Pierre-et-Miquelon, Baltimore et Halifax sur les côtes nord-américaines. Neoline espère désormais la mise en chantier prochaine d'un second cargo bas carbone.
Une localité de l'ouest de la France, toujours les pieds dans l'eau ce samedi. La ville de Redon et une vingtaine de villages d'Ille-et-Vilaine sont touchés par d'importantes inondations depuis plusieurs jours. La décrue semble lente et l'état de catastrophe naturelle est déclenché. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. C'est le principal festival de bande dessinée en France de BD. Le festival d'Angoulême a récompensé de son Fauve d'or l'album de Luz, deux filles nues, les précisions de Sophie Dorlotin.
C'était le grand favori de la sélection. Le Fauve d'or d'Angoulême sacre cette année un album et un auteur incontestable. Ce prix a le goût d'une revanche sur la vie pour Luz, qui a choisi de se consacrer à la bande dessinée et d'abandonner le dessin de presse après avoir échappé de peu à l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo il y a 10 ans. Son album primé, Deux filles nues, est la biographie d'une toile de l'expressionniste allemand Otto Müller, peinte en 1919, acquise par un riche collectionneur juif, puis moquée par les nazis, présentée dans l'exposition d'art dégénéré, spoliée et enfin restituée après la Seconde Guerre mondiale aux descendants d'Ismar Littmann. Luz réussit un tour de force graphique, car toute cette histoire vraie est racontée du point de vue du tableau. Ovationné et très ému, Luz s'est étonné que ce qu'il pensait être un album historique résonne avec l'actualité, avec la montée de l'extrême droite en France. Toujours sous protection policière, il s'est réjoui d'avoir pu rencontrer ses lecteurs ici à Angoulême et faire partie d'auteurs qu'il qualifie, en s'en revendiquant, de dégénérés et d'enragés. Sophie Torlotin, Angoulême, RFI.
En Ligue 1, c'est du foot, le Paris Saint-Germain a battu Brest en s'imposant 5-2 en Bretagne cet après-midi à l'occasion de la 20e journée de la compétition. Les deux équipes se retrouveront dans 10 jours pour les barrages de la Ligue des Champions, une autre compétition. Et la défense brestoise a pu se rendre compte du danger provoqué par l'homme en forme du côté parisien Ousmane Dembélé, d'origine malienne. Auteur de son deuxième triplé de la semaine, l'international français a mis à profit son repositionnement dans l'axe d'attaque.
Ouais, c'est bien, mais après je pense qu'aujourd'hui il faut féliciter l'équipe et surtout les passeurs, parce que le premier but j'ai plus qu'à la pousser au fond, et sur le troisième but la passe à Kanging elle est exceptionnelle, il m'a vu et puis voilà, j'ai plus qu'à la mettre, et c'est bien, je suis bien placé, je suis dans le rôle de numéro 9, voilà, je me dois de marquer des buts, et je pense que c'était un match aussi à jouer un peu la carotte un peu derrière la défense et voilà, marquer des buts. Je jouais plus milieu droit collé à la ligne, donc c'était plus difficile d'aller marquer des buts. Tu devrais dribbler 3-4 joueurs avant de pouvoir marquer, que là que t'es en numéro 9, t'as un joueur, ou sinon t'as plus qu'à pousser le ballon quoi, comme je l'ai fait aujourd'hui, donc c'est bien, faut continuer.
C'était Ousmane Dembélé, le joueur du PSG. Les autres résultats de cette 20e journée de Ligue 1, Lens a battu Montpellier 2-0, Monaco a renversé Auxerre 4-2, et demain, vous pouvez noter ces rendez-vous aux heures de Paris, Toulouse, Nice, 15h, Rennes, Strasbourg, 17h15, Marseille, Lyon, 20h45. Et puis en tennis, le français Hugo Humbert, 15e joueur mondial, a offert le premier point à la France en Coupe Davis. Il a battu à domicile le brésilien Joao Fonseca, 99e mondial, 7-5, 6-3 après 1h25 de jeu. Dans 20 minutes, c'est Afrique Soir, toute l'actualité africaine. Merci à vous.